Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, merci d'être à l'écoute de Radio Vatican. Dans l'actualité de l'Église de cette édition, nous vous rendrons compte des activités du pape au cours de la journée de lundi avant de nous rendre au Tchad et au Cameroun. Encore des morts en République démocratique du Congo. Au moins 22 personnes ont été tuées dimanche dans une nouvelle attaque contre un camp de déplacés en Ituri, dans le nord-est du pays. Nous en parlerons dans l'actualité sociopolitique africaine qui nous conduira au Burkina Faso, en Afrique du Sud, en Éthiopie, entre autres. À tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niémier.
Ouvrons l'actualité de l'Église par les audiences du pape. François a reçu tour à tour en audience privée lundi le cardinal Cristobal López Romero, archevêque de Rabat au Maroc, Monseigneur Fernando Ocaris Bagna, prélat de l'Opus Dei avec le vicaire auxiliaire Monseigneur Mariano Facio. Puis le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Ensuite, le cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Toujours lundi, M. Jorge Hernando Pedraza, secrétaire général de la communauté andine au Pérou, et son épouse ont été également les hôtes du pape. À l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de l'Organisation internationale des migrations, le pape a adressé un vidéo-message lu par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Cet anniversaire, a souligné le Saint-Père, offre une occasion pour renouveler la vision et notre engagement à travers une réponse beaucoup plus digne aux phénomènes migratoires. Une réponse qui tienne compte de la sensibilité humaine, de la justice et de la fraternité, a dit le pape, car la migration concerne tous et non pas seulement les migrants. François a en outre dénoncé la duplicité qui consiste à utiliser les migrants comme une bonne main-d'œuvre moins coûteuse et en même temps à les rejeter, exploitant ainsi leur souffrance et leur désespoir aux fins purement politiques. Le Saint-Père a en outre formulé 4 observations. Trouver urgemment des voies plus dignes pour sortir des situations irrégulières afin que les migrants ne soient plus sujets à l'exploitation, aux abus criminels. Enclencher des processus d'intégration bidirectionnelle, ce qui est fondamental pour un enrichissement réciproque. Offrir aux familles entières qui se déplacent la possibilité de vivre dignement en tant que famille. Et l'urgence pour la communauté internationale d'affronter les causes qui poussent à la migration irrégulière. Le bureau de presse du Saint-Siège a rendu public le calendrier des célébrations liturgiques pontificales pour l'Immaculée Conception et le temps de Noël. Ce sont des semaines centrales et intenses pour les catholiques qui clôturent l'année 2021 et commencent la nouvelle année. Plus de détails avec Christian Combé.
Le mercredi 8 décembre, solennité de l'Immaculée Conception. Le pape François accomplira un acte de dévotion privé place d'Espagne à Rome afin d'éviter les rassemblements et le risque de contagion au Covid-19. Vendredi 24 décembre, en la solennité de la Nativité du Seigneur, à 19h30, heure de Rome, François présidera dans la basilique Saint-Pierre la messe de la Sainte Nuit de Noël. Le samedi 25 décembre, solennité de la Nativité du Seigneur, le Saint-Père prononcera son message de Noël et adressera sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à 12h, heure de Rome. Le vendredi 31 décembre, en la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, le pape présidera à 17h, heure de Rome, les premières vêpres avec le Te Deum en action de grâce pour l'année écoulée en la basilique Saint-Pierre. La basilique Saint-Pierre accueillera également les célébrations du 1er janvier, solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Il s'agira aussi de la 55e journée mondiale de la paix et le pape présidera une messe à 10h. Toujours en la basilique Saint-Pierre, le mercredi 6 janvier, le pape présidera en la solennité de l'épiphanie du Seigneur une célébration eucharistique à 10h. Enfin, le dimanche 9 janvier à 9h30, le pape François conférera le baptême à des enfants au cours de la messe du baptême du Seigneur.
Christian Combé. La suite de l'actualité de l'Église nous conduit en République démocratique du Congo. La Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a décidé de suspendre la participation de l'Église catholique de la plateforme des confessions religieuses, qui avait pour tâche de désigner les animateurs de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Selon un communiqué rendu public lundi, cette décision est due à la grande divergence des doctrines et des perceptions des valeurs éthiques avec certaines confessions religieuses. Le cardinal Peter Turkson, préfet du dicastère pour le service du développement humain intégral, est depuis le 25 novembre dernier au Tchad pour un colloque théologique international qui se tient du 29 novembre au 1er décembre prochain. En marge de ce colloque, le cardinal Turkson a visité vendredi dernier dans l'archidiocèse de N'Djamena le complexe hospitalo-universitaire Le Bon Samaritain de Walia. Reportage.
Ils ont manifesté un accueil chaleureux à son éminence Peter Cardinal Turkson. Ils, ce sont les étudiants et le personnel du complexe hospitalo-universitaire Le Bon Samaritain. Le cardinal et sa délégation ont visité tour à tour les différents services du complexe avant d'échanger avec le personnel. Le directeur du dit complexe, le père Yves Diofon, a dans son mot de circonstance fait une mention particulière pour les familles vulnérables.
Tous les jours, nous découvrons davantage que se soigner reste un parcours de combattant pour les plus pauvres, confrontés à une précarité grandissante. Il y a de plus en plus de familles en butte aux difficultés économiques qui viennent à l'hôpital et que nous devons accueillir et soigner. Comment y faire face quand le contexte économique international tend à imposer une réduction drastique des subventions vers les pays pauvres?
Pour son éminence, Peter Cardinal Turkson, c'est le désir du dicastère dont il a la charge de soutenir de telles institutions.
C'était notre désir, vous aider avec une belle somme d'argent que nous allons faire arriver ici à travers l'initiative. De ce visite-là, vous avez un autre partenaire. C'est le partenaire du dicastère du Vatican qui a déjà l'objectif d'y faire fleurir cette institution-là.
Une célébration de messe lançant officiellement l'année académique 2021-2022 a mis un terme à cette visite. Séverin Dingatolum pour Radio Vatican.
Au Cameroun, le diocèse de Bafoussam a abrité un colloque national axé sur les fondements philosophiques de la paix. L'événement s'est déroulé dans la salle des actes du grand séminaire provincial Saint-Paul VI Philosopha de Kouékon du 22 au 25 novembre dernier.
Des philosophes de tous bords, francophones et anglophones du Cameroun, se sont rassemblés pour défricher un nouveau chemin de retour à la paix et au vivre ensemble. Le président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, Monseigneur Abraham Komé, a ouvert les travaux.
L'Église demande qu'on soit artisan de paix et pas théoricien de la paix, que les participants soient outillés pour être concrètement au service de la paix.
Tous se sont accordés sur le fait que la paix doit d'abord être vécue individuellement avant de devenir un fait social. Ce colloque est une initiative de Mgr André Nazer Toum, recteur du Philosophat de Kouékon.
Cette initiative a été commandée par les événements que nous vivons depuis 2016 dans notre pays. La tentative de déstabilisation du pays, avec Boko Haram à l'extrême nord, les rebelles centrafricains à l'est, et plus proche de nous, la situation inqualifiable que vivent nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest.
Le combat étant permanent, les participants à ce colloque ont invité chaque Camerounais à faire l'option fondamentale pour la paix afin de rendre possible l'avènement d'une culture de la paix, fondement de toute paix véritable. Paul Valéry Mondogo, DDA, pour Radio Vatican.
La nouvelle traduction du missel romain est entrée en vigueur le dimanche 28 novembre 2021. Le liturgiste jésuite Modeste Nankumbu nous explique les modifications de cette nouvelle traduction. Il commence par nous dire ce qu'est le missel romain. On l'écoute.
Le missel romain, ou comme on l'appelle le plus souvent, missale romanum, c'est le livre liturgique qui rassemble les textes et les indications rituelles et musicales nécessaires à la célébration de la messe par le prêtre selon le rite romain. Pourquoi une nouvelle traduction? L'essentiel, c'est d'assurer la meilleure participation de tous dans la célébration. C'était déjà une préoccupation du Concile Vatican II. Quand nous allons dans le Sacrosanctum Concilium au numéro 14, c'est le souci du Concile. nous avons d'abord une meilleure participation de chacun, une meilleure participation de toute la communauté, et pourquoi pas une meilleure participation de la communauté à la vie du monde. Alors, la Commission épiscopale francophone pour les traductions liturgiques avait déjà confié à un comité d'experts, rassemblé au sein de la Commission pour le missel romain, le Comiro, la traduction française du livre par excellence de la célébration eucharistique. Cette commande faisait elle-même suite au souhait du pape Jean-Paul II de voir paraître les livres liturgiques du rite romain en langue vernaculaire selon l'esprit de l'instruction Liturgiam Authenticam de 2001. Alors, le travail de traduction de la Comiro, commission du missel romain, a porté sur l'intégralité du missel romain. Les traducteurs ont également veillé à rendre la traduction aussi inclusive que le permet le texte latin, qui dans certains cas est moins genré que la traduction française elle-même. Et sur ce point, rappelons que le mandat de la Comiro était de traduire le missel romain et non pas de l'adapter ou de le modifier. Et nous en arrivons même au credo, engendré non pas créé, consubstantiel au Père. Cette nouvelle traduction entre en vigueur le dimanche 28 novembre 2021, mais elle sera rendue obligatoire à compter du dimanche 10 avril 2022, donc qui sera le dimanche des rameaux. Ce qui fait que pendant tout ce temps, c'est le temps propice pour qu'il y ait ce travail de catéchèse, qu'il y ait ce travail d'explication, qu'il y ait ce travail de vulgarisation. En sorte que, quand nous arriverons au moment où ça sera vraiment rendu obligatoire, voilà, tout le monde sera déjà entré vraiment dans le rythme de la prière avec cette nouvelle traduction.
Père Modeste Nankumbu, liturgiste et jésuite congolais. Propos recueillis par Donatien Nyembo.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le ministre sénégalais de l'économie, Amadou Hoth, a demandé lundi à la Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique, une relation avec le continent moins centrée sur la dette et profitant plus aux économies africaines. Le ministre s'exprimait lors du forum sur la coopération Chine-Afrique en présence physique ou virtuelle d'entrepreneurs chinois et africains. La coopération doit viser plus d'investissements directs étrangers chinois en Afrique, a-t-il dit. Au moins 22 civils ont été tués dimanche dans une nouvelle attaque contre un camp de déplacés en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, moins d'une semaine après une attaque similaire ayant fait 29 morts sur un site voisin, a indiqué la Croix-Rouge locale. Au moins 4 soldats burkinabés ont été tués dimanche lors d'une attaque contre un détachement militaire à Solé dans la région du nord proche du Mali, a-t-on appris lundi de sources sécuritaires. L'Éthiopie a nié avoir mené au cours du week-end une attaque dans une région frontalière disputée avec le Soudan, blâmant les rebelles tigréens que le gouvernement combat depuis plus d'un an. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé dimanche soir les pays ayant imposé des restrictions de voyage aux Sud-Africains après la détection d'un nouveau variant du coronavirus à leur levée immédiate et urgente, les jugeant dépourvus de justification scientifique. Il s'est dit profondément déçu par ces mesures de frontières complètement injustifiées et qui représentent une forme de discrimination à l'égard de son pays et des pays voisins affectés par les mêmes mesures.
Radio Vatican, Français Afrique, Françoise Niamier.
Au Mali, l'imam Mahmoud Diko, qui a été à la tête de manifestations antigouvernementales massives l'année dernière, a mis en garde la junte militaire au pouvoir sur la gestion actuelle du pays qui ne va pas, s'adressant au colonel Assimi Goïta.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Le magazine du jour sur la santé, c'est avec Marie-Josée Moindo-Boisboileau.
La santé, un problème pour tous, un défi pour les sociétés et l'Église en Afrique.
Notre magazine sur la santé concerne aujourd'hui la campagne Safe Home dans le cadre de la lutte de l'Organisation mondiale de la santé contre les violences faites aux femmes, considérées comme un problème de santé publique majeur. Depuis le 25 novembre, journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, jusqu'au 10 décembre, journée mondiale des droits de l'homme, la communauté internationale promeut 16 jours de la campagne Orange the World, ONU, pour soutenir les femmes victimes de violences. À travers la campagne Safe Home, la Fédération internationale de football, l'association FIFA et l'Organisation mondiale de la santé unissent leurs efforts pour sensibiliser aux risques de violences domestiques et appeler à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux enfants. La campagne Safe Home entre dans sa deuxième année. À travers la FIFA, le football continuera à relayer ce message jusqu'à ce que de tels agissements disparaissent complètement de nos sociétés. La violence n'a pas sa place dans notre société. Le sport est déterminé à poursuivre la collaboration avec les grandes organisations internationales afin de mettre un terme à la violence en se servant du football comme d'un outil pour sensibiliser à ce fléau et à d'autres problèmes cruciaux auxquels la société est confrontée aujourd'hui, a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, à propos de la reconduction de la campagne. Il est impératif que le monde reste résolu à faire cesser les violences commises à l'encontre des femmes et des filles. La prévention et la lutte contre cette violation généralisée des droits humains doivent faire partie intégrante des mesures prises par chaque pays pour faire face à la COVID-19, a insisté le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. La cinquième vague épidémique et l'irruption du variant Omicron entraînent suspension de liaisons aériennes et fermeture de frontières. Il incombe à chacun d'entre nous de veiller à ce que les victimes se sentent en sécurité et reçoivent l'aide et les services essentiels dont elles ont besoin à tout moment, indique le directeur général de l'OMS dans le cadre de la campagne de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles. La pandémie due au coronavirus est un test pour l'humanité. Elle a accru l'exposition des femmes et des enfants aux violences domestiques. 30% des femmes à travers le monde ont été violées, battues, forcées à l'acte sexuel ou abusées au moins une fois dans leur vie. Il s'agit là d'un véritable fléau que nous devons combattre sans détour, et ce, à tous les niveaux de pouvoir, sur tous les terrains. La première chose à briser est le silence. C'est la raison d'être de cette campagne. La campagne s'adresse au grand public et aux décideurs, y compris au gouvernement. Elle entend attirer l'attention sur les risques ainsi que sur les mesures permettant de les prévenir et de les réduire. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, les violences contre les femmes restent très présentes et commencent extrêmement tôt. Soit 736 millions de personnes subissent des violences physiques et ou sexuelles de la part de son compagnon ou des violences sexuelles à l'extérieur du couple. En outre, ces violences débutent tôt. Une jeune femme sur quatre, entre 15 et 24 ans, ayant eu une relation de couple, a déjà subi des violences de la part de son compagnon. Quelle que soit sa forme, la violence peut avoir un effet sur la santé et le bien-être d'une personne tout au long de sa vie. La violence est associée au risque de blessures, à la dépression, aux troubles de l'anxiété, aux grossesses non désirées, aux maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH-Sida et bien d'autres soucis de santé. Son coût pour les ménages, les communautés et les sociétés est énorme. La campagne Safe Home vise à sensibiliser aux risques et à proposer des mesures pour les éviter ou les réduire. Outre les témoignages et les conseils de victimes, les contenus s'intéressent aux risques de passage à l'acte et demandent au gouvernement de mieux soutenir les personnes vulnérables. La violence à l'encontre des femmes, qu'elle soit le fait d'un partenaire intime ou de nature sexuelle, est un grand problème de santé publique et une violation majeure des droits de la femme. La violence à l'égard des femmes peut être prévenue. Le secteur de la santé a un rôle important à jouer à cet égard et peut offrir des soins de santé intégrés aux femmes soumises à la violence et les orienter vers les autres services d'appui dont elles pourraient avoir besoin.
Invité du jour.
Après la prière de l'Angélus du dimanche 28 novembre dernier, premier dimanche de l'Avent, le pape François a évoqué la situation douloureuse que rencontrent les migrants dans leur tentative de recherche d'un avenir meilleur. Le Saint-Père a particulièrement exprimé sa douleur pour ceux qui sont morts ces derniers jours dans le canal de la Manche, de ceux qui sont coincés aux confins du Bélarus et de ceux qui se sont noyés en Méditerranée. D'autres qui sont rapatriés à partir de l'Afrique du Nord sont capturés par des trafiquants qui font d'eux des esclaves, qu'ils soient hommes, femmes ou enfants. Le pape a également exprimé sa proximité et assuré de ses prières aux migrants qui se trouvent dans cette situation de crise. Il a en outre exprimé sa gratitude à toutes les institutions catholiques et non catholiques ainsi qu'à tous ceux qui sont engagés pour soulager leurs souffrances. Du côté de la côte mauritanienne, les migrants vivent une situation tout aussi tragique. La semaine dernière, Caritas Nouadhibou sur la côte atlantique a secouru des naufragés d'origine malienne, sénégalaise, gambienne et centrafricaine. Il y a également eu des morts et des disparus. Le père Florian Pachel, congolais d'origine et responsable de Caritas Nouadhibou en Mauritanie, nous rend compte de cette situation tragique des migrants et nous parle de l'aide qu'apporte Caritas Nouadhibou, très active dans la pastorale des migrants.
Il faut rappeler que une semaine et passe à Nouadhibou, en Mauritanie, sont des situations de naufrage qui sont récurrentes. Et à notre avis, ce sont des situations macabres. Ils viennent du Mali, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, même du Congo, estiment n'avoir aucun avenir et espèrent pouvoir gagner l'Europe via la Mauritanie. Donc, avec la pandémie de la COVID-19, qui a impacté négativement les activités des migrants sur le plan social et économique, et à cause des difficultés toujours liées à cette pandémie-là, nous assistons maintenant à un phénomène migratoire accéléré. Donc, il y a des flux migratoires, il y a des départs accélérés à partir du Sénégal, de la Gambie et de la Mauritanie. Donc, depuis le 27 septembre, il y a eu des naufrages, des pirogues qui sont venus du Sénégal. Il y avait des pirogues, l'embarcation a eu lieu à Mbou, et puis le 10 octobre, l'embarcation a eu lieu à Saint-Louis du Sénégal. Donc, ce sont les jeunes africains qui cherchent des voies et moyens pour arriver en Europe, espérant avoir une vie meilleure, espérant trouver une sécurité. Et notre mission comme Caritas paroissiale, Caritas Nouadhibou, c'est de secourir tous ces jeunes-là. Quand il y a des naufrages, souvent nous sommes contactés, on est contacté par le service de la migration au niveau local. Et nous avons un véhicule ici, bien que le véhicule n'est pas en bon état, mais on se précipite pour arriver sur le lieu. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous secourons, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, ce ne sont pas des criminels. Voilà, ce sont des gens qui cherchent une sécurité, ce sont des gens qui cherchent un avenir meilleur. Donc notre mission, c'est de les secourir. On leur tend la main, on arrive à les secourir en les mettant à l'abri, puis on leur fournit des aides essentielles. Quand ils sortent de l'eau, souvent, ils sont déshydratés, ils sont épuisés, ils sont fatigués, car ils ont passé plus d'une semaine en mer, ni boire, sans manger, ils sont fatigués. Donc le premier secours, c'est de leur donner de l'eau, c'est de leur donner des repas chauds, de leur donner une vertu pour secourir contre le froid, et puis de les mettre à l'abri, et puis de leur chercher, voilà, avec le secours de la Croix-Rouge française, de temps en temps, on leur donne une assistance sanitaire.
C'est une aide assez concrète que vous fournissez aux migrants, et quand vous les accueillez ainsi, il y a aussi un accompagnement que vous faites en termes de conseils. Quel genre de conseils vous leur donnez? Et aussi, quels conseils donnez-vous aux jeunes africains qui cherchent à tout prix à aller trouver des conditions meilleures en dehors de l'Afrique que chez eux-mêmes?
Bon, nous sommes une structure qui respecte la loi de la libre circulation. Nous savons que d'après l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout homme a le droit de se déplacer, tout homme a le droit de voyager. Donc nous encourageons la migration régulière et non la migration irrégulière. Et puis notre travail, c'est de sensibiliser ces jeunes africains qui arrivent désespérés en quête d'un avenir meilleur. Nous les sensibilisons au drame de l'immigration irrégulière. Alors nous leur présentons les dangers. Et voilà, la route que vous prenez là, il y a des dangers, il y a des morts. Voilà ceux qui sont allés avant vous, voilà ce qui s'est arrivé. Voilà, il y a des cadavres, il y a des gens qui ont été secourus, épuisés, malades, déshydratés. Donc, on vous présente ces situations, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir, faites très attention. Ne vous engagez pas dans cette aventure, au risque de perdre vos vies. Donc, nous les recrutons au sein de la Caritas des formations. Nous avons des formations professionnelles que nous organisons ici. En cuisine, en pâtisserie, en informatique, en comptabilité, des ateliers de couture et de peinture pour les femmes et puis des cours de langue. Quand les nouveaux arrivent, on les sensibilise, on les présente des formations. Il y a certains qui adhèrent, qui restent pour se former. Après 4 mois, ils ont, on leur délivre une attestation. Et avec cette attestation, ils peuvent trouver un travail ici en Mauritanie et puis promouvoir voilà, l'intégration en Mauritanie.
Vous êtes Caritas, une structure catholique dans un contexte islamique, musulman. En quoi consistent vos activités dans ces contextes-là et comment arrivez-vous à déployer cela dans un contexte particulier qui est celui de la Mauritanie?
La Mauritanie est une république islamique peuplée d'environ 4 millions d'habitants. Ce pays a un islam, je dirais, tolérant. Parce que ça fait déjà pratiquement 7 ans que je suis ici. Et vraiment, la population, voilà, nous accueille. Nous sommes bien accueillis ici. Et comme chrétien, je n'ai pas encore connu de menace. Il n'y a pas de menace, c'est que nous savons, c'est que nous participons. Il y a une bonne collaboration entre les chrétiens ici en Mauritanie et les musulmans qui sont là. Nous avons une bonne collaboration avec les autorités locales. Au sein de la mission catholique de Madibou, nous avons des activités d'ordre social, des activités d'ordre éducatif, des activités d'ordre culturel. Et les bénéficiaires de nos activités, ce sont les migrants, mais une grande partie aussi, c'est la population autochtone, c'est la population locale. Donc, je devrais dire que nous Mauritanie sommes en sécurité. En Mauritanie, voilà, nous arrivons à mener à bien nos activités avec et pour les migrants et aussi pour la population locale.
C'était le père Florian Pachel de la République du Congo, responsable de Caritas Noidibou en Mauritanie. Il répondait aux questions de Stanislas Kambashi.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est la fin de cette édition de notre programme qui vous a été présenté par Françoise Nyamia. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. À très bientôt.